notre lecture de l'Exode et nous arrivons au chapitre 15. Le peuple vient de sortir d'Égypte, libéré par le Seigneur, à main forte et à bras étendus, comme dit l'Écriture. Alors nous allons voir le Seigneur conduire son peuple à travers le désert en direction de la terre promise. Et au cœur du désert, tout au sud de la péninsule, au Sinaï, eh bien le Seigneur va donner à son peuple une loi. Et le Seigneur va faire alliance avec son peuple. Et c'est absolument fondamental pour toute la suite de l'histoire d'Israël et pour son cheminement avec le Seigneur. Et je voudrais vous lire un petit commentaire juif, un midrash, à propos de cette loi et de ces 10 paroles, ces 10 commandements. La question est la suivante. Pourquoi les 10 commandements ne furent-ils pas donnés dès le début de la Torah? C'est vrai, s'ils sont si importants que cela. Alors écoutez la réponse. À quoi cela peut-il être comparé? À un roi qui, arrivant dans une province, disait au peuple « M'accepteriez-vous pour roi ?» Mais le peuple de lui répondre « Qu'avez-vous fait d'utile pour nous afin de mériter de régner sur nous ?» Que fit-il alors? Il construisit pour eux une muraille autour de la ville. Il y amena l'eau et il combattit pour eux. Il leur demanda ensuite « M'accepteriez-vous pour roi ?» Et ils lui répondirent « Oui, oui !» Dieu a fait de même. Il a fait sortir Israël d'Égypte. Il a divisé pour eux la mer. Il a fait pleuvoir pour eux la manne. Il a fait pour eux jaillir une source. Il leur a envoyé l'écaille. Il a combattu pour eux lors du combat contre Amalek. Puis il leur a demandé « M'accepteriez-vous comme roi ?» Ils lui ont répondu « Oui, oui. » Alors on voit bien là tout le sens de cette loi. Dieu n'est pas d'abord un législateur qui imposerait une loi à son peuple. Cette loi, si fondamentale, elle est vraiment à resituer toujours au cœur de l'Exode. Dans cette révélation progressive de Dieu qui se livre en donnant son nom, qui se révèle comme le Dieu plein de compassion, ce Dieu qui agit, qui sauve son peuple. Et on a vu que le peuple n'avait rien à faire qu'à se laisser sauver, à voir, à croire et à exprimer sa reconnaissance dans un champ d'action de grâce. Alors une fois la mer des roseaux passée, eh bien le Seigneur les conduit. Je lis au chapitre 15, verset 22. Moïse fit partir Israël de la mer des roseaux. Ils se dirigèrent vers le désert de Shur et marchèrent 3 jours dans le désert sans trouver d'eau. Mais quand ils arrivèrent à Mara, ils ne purent boire l'eau de Mara car elle était amère. C'est pourquoi on l'a appelée Mara. Alors vous voyez, nous voyons un itinéraire se dessiner depuis Mara jusqu'à Élim, et puis plus loin encore jusqu'au désert de Sin, et puis il y aura Réphidim, et cette étape centrale, le Sinaï. Alors cet itinéraire que l'on peut éventuellement situer sur une carte n'est pas seulement géographique, il est aussi spirituel. Et vous comprenez bien que le désert, c'est un lieu particulier géographiquement déjà. Le désert est aride, le désert est désertique, le désert est austère, le désert est silencieux. Et le désert est déroutant pour l'homme, et le désert façonne l'homme. On ne revient pas du désert comme on y est arrivé. Alors pourquoi cela? Eh bien parce que le désert est rempli de difficultés. Ce n'est pas spontanément un lieu où nous choisirions d'habiter et de vivre. C'est un lieu où l'on a soif. Vous voyez, où il y a peu d'eau. Quand il y en a, elle est quelquefois comme un Mara. Elle est amère, elle n'est pas propre à être bue. Et vous savez que Mara, ça veut dire amère. Donc dans ce verset 23, eh bien on entend quand ils arrivèrent à